Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Joanne.
Salut.
Comment vas-tu? Je crois qu'on a, 10 heures de décalage. C'est le matin très tôt pour toi. Comment se passe ton réveil?
Ça se passe plutôt bien, je bois un petit café là, et voilà, c'est chouette, je suis contente d'être sur le podcast.
Bah écoute, trop cool, mais merci infiniment à toi d'avoir répondu disponible et présente pour donner un petit peu de contexte. Du coup, tu, malgré ton statut de sportif de haut niveau, tu n'as pas échappé aux règles de quarantaine australienne, puisque là tu es à Sydney, c'est bien ça?
Exactement. Et Noé, après, on s'y attendait un peu, parce que pour Melbourne, le tournoi de tennis, ils ont aussi dû être en quatorzaine. Donc, si les tennismans n'y avaient pas échappé, c'était sûr que les surfeurs n'allaient pas y échapper.
Ouais. Bon, on aurait pu se dire quand même pour l'Australie qui est quand même une grande nation du surf. Alors c'est pas Hawaï ou les Américains, mais on aurait peut-être pu se dire qu'il y allait peut-être avoir une petite entorse. Et puis vous êtes quand même un peu moins nombreux aussi, nombreux et nombreuses.
C'est vrai.
Sur le tennis, entre les qualifs et tous les tours, ils sont.
Non, c'est vrai qu'on est moins nombreux. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, on est monté aussi. La WSL a vraiment organisé un avion spécial juste pour nous, avec un test avant. Enfin, c'est vrai que bon, c'était assez calé. Mais bon, on coupait pas la 14e.
Bon bah écoute, je vais essayer de te donner un peu de baume au cœur pendant cette petite 14e et j'imagine que ça doit pas être que le temps doit sembler un petit peu long même si tu m'as dit que tu t'occupais bien. La première question un peu pour lancer ce podcast, c'est la question traditionnelle auquel aucun invité et ne peut échapper, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport. Par rapport à mon sport ou n'importe quel sport?
Ouais, mais ça peut être vraiment, tu vois, ça peut être un souvenir d'un sport que t'as vu en tant que spectatrice ou en tant ou en famille. Ça peut être dans n'importe quel sport. Ça peut être dans le surf. C'est vraiment comme tu veux, tu vois. C'est complètement libre. C'est question ouverte.
D'accord. Je dirais que mes premiers souvenirs de sport, c'est mon père qui allait faire du sport, beaucoup de sport. Il était toujours à droite à gauche pour faire du surf, faire du tennis. Donc c'est vraiment dans ma famille mon père qui a été hyper actif. Et c'est vrai que voilà, je dirais ça.
Ok, et il faisait quoi il faisait quel sport du coup ton papa?
Un peu de tout, il avait besoin d'être dehors, donc donc mes premiers souvenirs c'était à La Réunion clairement, parce que à la base on vient d'Auvergne, ils ont déménagé à La Réunion, j'avais 20 mois et mon père s'est mis au surf là-bas, mais sinon il faisait du tennis, de l'escalade, de la rando, du squash, de la planche, c'était vraiment un peu un touche-à-tout et du coup je me souviens qu'on allait le voir, soit jouer avec lui, soit être dans l'eau. C'est les sports dans l'eau comme le surf, c'est vrai que c'est un sport cool parce que le reste de la famille, comme ma mère qui surfe pas, mais elle est à la plage et du coup nous avec les enfants on est à la plage aussi, enfin donc c'est ça un peu mes souvenirs.
Ok, ouais, donc du sport en famille et avec une grosse touche de plaisir et de simplicité, j'ai l'impression.
Ouais, beaucoup de simplicité. Je pense que c'est une des choses qui caractérise une enfance à La Réunion. C'est pas de chaussures, pas de manteau, aller à la plage tous les jours s'il faut après l'école, enfin... Moi, c'était vraiment l'endroit où j'étais trop bien dans l'eau depuis toute petite, quoi. Donc simplicité, c'est sûr.
Mais j'ai un souvenir de, je crois que c'était avec Fanny Guibert qui fait de l'escalade, qui a grandi aussi à La Réunion. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais elle m'avait effectivement raconté un petit peu son enfance, qui était vraiment, ça donne vraiment envie. Enfin, je me dis, pour les enfants, ça a l'air d'être vraiment un cadre parfait. Tu peux faire énormément d'activités différentes. Les gens sont, tu vois, t'es vraiment au contact de la nature et j'ai vraiment l'impression que ça autonomise et en même temps que ça permet d'éveiller un enfant au maximum, quoi. Donc, ça a l'air.
Je suis totalement d'accord. Ouais, je peux pas dire le contraire. C'est sûr que on devient d'avoir ce contact à la nature, d'être toujours dehors, en fait, plus je grandis, plus je m'en rends compte, mais c'est vrai que on se pose pas la question si demain il fera beau, s'il y aura du soleil ou pas. Enfin, c'est vrai que d'être dans un endroit tropical, c'est quand même le bonheur et pour les enfants, du coup, on est deux fois plus dehors, on est hyper actif, quoi, c'est clair, Et c'est pour moi, c'était un vrai bonheur et c'est vraiment ancré dans moi maintenant, quoi.
Ouais, ouais, je comprends. Et tu te souviens un peu de tous les sports que t'as essayé étant plus jeune avant de tomber dans l'univers du surf?
Ouais, j'en ai pas essayé 36, hein. J'ai fait de la gym avant.
Ouais.
Quand j'étais, ouais, de la gym bébé, quoi. Enfin, non, pas bébé, j'avais, je crois que c'était de 4 à 6, 4, 5, 6, 7, un truc comme ça. Et puis, je me souviens qu'un jour, on a changé de coach ou d'entraîneur. Et ça me plaisait plus d'un seul coup. Avec cette personne, ça passait moins bien. Et du coup, je voulais plus en faire. Mmh. Et c'est à ce moment-là que papa m'a dit, on va te mettre au surf. Et à la base, je voulais pas trop, je crois. Ce qui était bizarre okay. parce que j'adorais l'eau. Donc, je sais pas, peut-être juste une petite appréhension. Et puis, en fait, on est allé essayer avec le club local et puis j'ai pas arrêté quoi. Donc surf et après un peu plus tard, je me suis mise à la danse aussi peut-être un an après. Et voilà, c'était mes deux sports, surf et danse.
OK. Et tu te souviens pourquoi pourquoi tu avais un petit peu d'appréhension avant de te mettre au surf? C'est quoi, c'est le je sais pas, le côté peut-être un peu
Pour être honnête, je me souviens pas du tout. Je pense juste que j'avais un peu l'esprit de contradiction. Donc, papa m'a dit, allez, viens, on va surfer. Et je lui ai dit non.
Ok.
Donc, voilà. Mais effectivement, après deux, trois petites, allez, viens, on y va, prends le bodyboard. Enfin, j'avais déjà pris, voilà, des petites vagues en bodyboard, au board, de toute manière. Enfin, voilà, j'étais tout le temps, en fait, le spot de surf où j'ai commencé. J'y allais tous les jours parce que c'était la plage à côté de chez nous et j'allais nager dans les vagues, je prenais un petit bodyboard. Enfin, c'est pas comme si j'en avais jamais fait en finale avant, donc
ouais.
Voilà.
Ouais, t'avais déjà un gros contact avec l'eau et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite culture du surf à La Réunion aussi. Il y a quand même quelques spots assez sympas
ouais.
Et du coup, tu dois, t'as dû voir d'autres surfeurs ou peut-être même d'autres filles surfer et ça aide aussi pas mal quoi, j'imagine.
Bien sûr, il n'y avait pas trop de filles quand même à l'époque. Il y en a toujours eu une ou deux, mais on n'est jamais. Enfin là, vraiment, je vois vraiment la différence en ce moment.
Ouais.
Enfin, il y en a beaucoup plus dans l'eau maintenant. Mais je pense que oui, la culture surf y est, même si ça reste c'est un petit pourcentage de la population, mais sur les côtes, il y a vraiment beaucoup de monde qui surfent, qui sont tournés vers l'océan et qui font que ça. Et puis, il faut le dire aussi, la Réunion, il y a eu pendant quelques années un stop du World Tour qui était à Saint-Leu, ouais. Où il y avait les meilleurs surfeurs qui venaient. Enfin, ça a été une destination de surf trip pour plein de pros parce que, ouais, les vagues sont incroyables, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et t'avais vu du coup cette compète qui était passée par La Réunion. Enfin, t'y as assisté.
Ouais, 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 bien okay. sûr. J'étais un peu plus âgée du coup, peut-être 9, 10 ans. Et
ouais.
Ma mère avait été infirmière aussi à un moment donné. Je crois pas que c'était l'année que j'avais vu moi. J'étais plus petite quand elle avait été infirmière de la compète, mais. Je me souviens c'était la dernière année où il y a eu en fait à La Réunion. Moi, j'étais un peu plus âgée et c'est cette édition que je me souviens avec tous les pros. Et puis j'étais avec ma copine. Il y avait d'autres jeunes qui surfaient. J'avais déjà commencé les petites compètes. Donc en fait, j'avais plus de 10 ans. J'avais 10-11 ans.
Ok.
Et voilà. Je me souviens bien.
Attends, donc t'as commencé tes premières compètes de surf à 10 ans quoi.
À 10 ans, ouais.
Ah, c'est fou. Mais attends, je me rends pas compte parce que bien que je surfe, tu vois, pour moi ça c'est un sport vraiment loisir et bon d'ailleurs c'était trop. Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette interview parce que je me suis remis du coup dans le tour et vraiment à comprendre comment c'était fait avec les différentes divisions et tout. On pourra en reparler un petit peu, mais à 10 ans, quoi. Il y a des compétitions de surf, du coup, à La Réunion qui s'organisent, ou tu dois déjà voyager pour pouvoir.
Non, il y a des compètes à La Réunion, bien sûr. Okay. C'est, enfin, il y en a moins maintenant, mais il y en avait beaucoup à l'époque. En fait, il y avait, encore une fois, dans le surf, il y a vraiment deux sortes de compétitions. Il y a les compétitions, on va dire, privées, professionnelles. Et les compétitions les compétitions régionales, quoi. Et ouais. Nous, ça nous permettait de nous qualifier pour l'équipe de La Réunion pour aller au championnat de France. Okay. Et voilà. Et donc, il y a à peu près à chaque fois, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait des compétitions, on va dire, fédérales, donc comme les régionales, les nationales. Ouais. Et à côté, il y a des compétitions qui sont organisées par des marques. Et par exemple, à l'époque, ça s'appelait le Marmaille Tour. Et j'avais fait première. Alors, je crois que j'avais 12 ans. J'avais fait première au classement à la fin. Et du coup, j'avais gagné un billet d'avion pour aller en métropole faire la finale qui, pareil, était organisée par Quicksilver Roxy. Et enfin. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a toujours, depuis le début, il y a toujours un peu ces deux circuits qui sont ouais. en parallèle. C'est pour ça que c'est un peu complexe des fois à comprendre.
Ouais, bah carrément. Moi, au début, j'étais un petit peu perdu. Alors peut-être que je peux te dire moi ce que j'en ai retenu de mes recherches, ouais. C'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui, on va dire la ligue majeure, c'est une ligue privée qui s'appelle le World Surf Tour, sur lequel vous êtes 14, il me semble, chez les filles,
on est 17.
17, pardon. Ah oui, et chez les hommes, ils sont 34, c'est ça?
Exactement.
Ouais, et du coup, tous les ans, en fait, il y a certaines filles qui descendent de division, d'autres qui montent. Du coup, tous les ans, la première division est renouvelée. Et pour la deuxième division, il y a plein de compétitions, mais si je comprends bien, c'est assez open. N'importe qui peut s'inscrire à partir du moment où il a une licence, quoi. Et après, il y a différentes compétitions en fonction de leur renommée ou de leur difficulté qui te permettent de gagner un certain nombre de points et d'être dans le classement de cette fameuse deuxième division qui te permet de montrer en première. C'est à peu près ça.
C'est ça, exactement.
T'as tout compris. J'ai bien bossé.
C'est clair. Non, c'est ça, voilà. Il y a première division, deuxième division, en gros. Et faut être sur les meilleures compètes de la deuxième division et à gagner le plus de points pour pouvoir être dans la première, quoi.
Ok. Ouais, ça fait un peu penser. Ça me fait un peu penser au tennis. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de tennis. Ouais. T'as le classement ATP et derrière t'as les tournois Challenger et en gros, bah, il faut effectivement gagner des points en Challenger pour rentrer dans le classement ATP et tu peux en ressortir un petit peu de la même façon, quoi.
Ouais, c'est ça, pareil. Exactement.
Ouais. Mais c'est assez unique hein, quand même comme fonctionnement, mais je trouve ça, enfin je trouve ça assez cool parce que du coup c'est assez ouvert aussi, ça permet aussi d'avoir aussi peut-être pas forcément sur la première division mais sur les autres d'avoir un petit peu de surprise et d'avoir laissé un petit peu sa chance à tout le monde, mais c'est assez unique comme organisation, je trouve.
C'est vrai que bah après je baigne dedans depuis tout le temps, donc ça me paraît tellement normal, mais oui, c'est particulier. Et ce qui est particulier, enfin tout est par exemple moi qui suis dans la première division, donc je fais partie des 17, j'ai quand même le droit de faire la deuxième division la même année au cas où, quoi. C'est un peu comme si un footballeur il jouait genre dans les deux divisions au cas où il jouait dans deux équipes au cas où son équipe perdrait tomberait de la deuxième de la première division.
Ok.
Donc okay, et puis c'est comment dire, là ils sont en train de se restructurer d'ailleurs en ce moment. Bon, c'est un peu tout chamboulé avec le Covid, mais ils voulaient fonctionner un petit peu différemment parce que du coup ça faisait beaucoup pour nous les filles. En fait, on est tellement peu sur la première division, en fait faut être dans le top 10 pour être qualifié pour l'année d'après.
Ouais.
Et en gros, jusqu'à des fois, quand t'es cinquième du classement à la mi-d'année, ou enfin, en fait, tu sais pas si tu seras dans les 10 ou pas à la fin de l'année, quoi. Ça peut aller très vite. Et du coup, même si, enfin, moi, j'ai toujours fait ça, même si j'étais cinquième, au début de l'année, j'allais faire des compètes de deuxième division pour essayer de gagner des points un peu au début pour voir. Puis pareil, à la fin de l'année, si j'étais pas au top, bah, je retournais en faire. Et du coup, en fait, mon année, elle s'arrête pas, quoi. Et les saisons, elles sont interminables. On commence en février et on finit en décembre, quoi.
Ouais.
Et c'est un peu des fois c'est un peu complexe, mais là normalement ça devrait s'améliorer avec leur changement un peu.
Ok. Mais du coup ouais si je comprends bien, il y a besoin de faire énormément de compétitions. Les compétitions tu les fais aux quatre coins du monde, dans les plus belles destinations, enfin en tout cas qu'on peut imaginer. Mais du coup j'imagine que ça doit être un sport assez cher du coup, et qui dépend beaucoup de la relation peut-être que vous avez avec les sponsors ou les prize money, non?
Ouais, complètement. C'est un sport où les sponsors font vraiment partie de ta carrière. Comme tu disais, vers 12 ans, j'ai commencé à avoir un sponsor. Bon, à l'époque, c'était des stickers et deux, trois t-shirts Roxy pour représenter à La Réunion, quoi, on va dire. Ouais. Mais ça fait vraiment partie de la carrière. Et pour avoir une idée, une année sur le World Tour, comme je disais, en fait, comme c'est nous qui organisons tous nos voyages, donc on choisit nos billets d'avion, notre logement, notre location de voiture, la nourriture. Tu te débrouilles un peu avec le budget que tu as, mais effectivement, à la fin de l'année, moi, une saison sur le World Tour, à peu près, c'est dans les 80 000 euros, quoi.
Waouh. Pour une personne, juste pour toi, quoi. Parce que en plus, j'imagine pas
je mets quand même les frais... On va dire que il y a au moins les frais de billets d'avion et tout quand même d'une deuxième personne. Pas partout, bien parce sûr. Que c'est pareil. Au final, moi, je peux pas amener beaucoup plus de monde. Je peux pas avoir un staff comme quand on est en équipe de France ou quoi. C'est voilà. Donc moi, à chaque fois, mon choix, il se fait entre mon coach, qui est aussi mon conjoint, donc s'il peut venir, c'est le top, et il vient et m'accompagne. Et si il a des obligations, du coup, c'est ma mère ou mon père qui viennent.
Ok.
Ou sinon, j'y vais toute seule.
Mais j'ai l'impression que c'est que ça se retrouve vachement dans les sports un peu extrêmes, ou les sports avec une forte culture anglo-saxonne, tu vois, ou justement les sports un peu en dehors des circuits. Fédéraux ou qui étaient en tout cas avant en dehors des circuits un peu olympiques. Enfin, je saurais pas comment tu vois comment classifier, mais tu vois, par exemple, j'en parlais avec Antoine Adlis, tu vois, qui fait du big air en ski, tu vois. Donc c'est ces mecs qui vont sur des énormes bosses et qui font trois sauts périlleux en un seul saut et qui risquent leur vie à chaque fois. Et je trouve que vous avez tous un point commun, c'est que comme vous êtes obligé de vous débrouiller un peu seul, je vous trouve vachement mature, tu vois. Lui, il a 24 ans et il dégageait une espèce de maturité, une espèce de conscience de lui, à la fois dans l'organisation, dans son devoir aussi de champion par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux sponsors. Vous êtes vachement autonome et enfin moi je suis bluffé en fait de à quel point ça. Déjà, vous devez un peu tout gérer par vous-même et vous n'êtes pas du tout couvé ou pas du tout. Vous êtes vraiment libre dans l'encadrement. Moi, je suis vraiment bluffé à chaque fois de votre maturité. Enfin, je sais pas si toi tu t'en rends compte, parce que effectivement, t'es dedans aussi, mais ou peut-être quand tu rencontres d'autres sportifs, tu vois, où tu peux effectivement constater qu'il y a peut-être un petit décalage de au niveau de l'organisation, quoi.
Ouais, complètement. Je sais pas comment dire. Ouais, si, je m'en rends compte, clairement. Je pense qu'on s'en rend compte aussi parce que, enfin, je sais pas, du coup, d'autres athlètes, comment ils s'organisent, mais moi, j'ai jamais pu tout faire toute seule, quoi. Clairement, depuis que je suis toute jeune, c'est, enfin, il y a eu vraiment une époque où, quand j'étais vraiment plus jeune, par exemple, Roxy organisait les trucs pour moi avec les autres filles Roxy. Et là, c'était tu fais partie d'un team et tout. Ça a été un peu plus simple. Et puis, mais c'est vrai qu'une fois que t'as, même un petit peu avant 18 ans, si tu choisis, enfin, c'est soit tu suis tout ce que ton sponsor fait, ou mais si t'as envie de faire autre chose, effectivement, faut que tu te débrouilles. Et et puis, à passer 18 ans, ben là tu te débrouilles pour de bon. Et du coup, moi, j'ai ma mère qui m'a vraiment beaucoup aidée, justement sur toute la partie logistique. Et c'est vrai que quand tu délègues à tes parents qui prennent du temps sur leur journée et tout pour ça, que t'as personne des fois pour t'accompagner, j'ai eu de la chance, ma mère, elle est infirmière libérale, elle a pu prendre une remplaçante et elle a pu m'accompagner. Mais du coup, c'est du temps que des gens te donnent et pour faire ce que toi t'as envie de faire. Et du coup, c'est assez, t'as quand même une certaine redevance. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte de ça et tu te dis il faut que, faut que je sois assez pro dans ce que je fais et un peu organisé et tout ça, quoi.
Ouais. Mais tu penses justement que le fait que tu sois un peu redevable, tu vois, peut-être envers les personnes qui t'accompagnent, tu penses pas que c'est quelque chose, en tout cas pour moi c'est un moteur, tu vois. Je me demande si pour toi aussi, justement, tu disais ça me donne envie d'être encore plus pro et tout. Tu penses pas que justement, ce côté de où tu dois être redevable, ça te
Bien
donne
sûr.
Encore plus envie de t'arracher et encore plus envie d'être la meilleure version de toi-même pour pas décevoir les personnes qui t'accompagnent, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que même avant ça, au final, ça a souvent été mon moteur. Moi, quand j'étais gamine, ne serait-ce mes parents, ça a toujours été un truc pour moi qui me tenait à cœur, de qu'on passe des moments. Finalement, quand on est sur les compétitions et tout, si tout se passe bien, on passe encore des meilleurs moments entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était. Ça a souvent été dans mon esprit, quoi, pendant mes compètes, en me disant ça va être, enfin c'est cool si je peux rendre mes proches fiers, quoi. Et puis plus j'ai grandi et plus ça a été comme ça aussi. Maintenant que quand j'ai eu des coachs un peu plus personnels aussi, quand ça a été une des choses aussi qu'il fallait savoir faire, je pense, s'entourer. Et quand j'ai eu des coachs et que là depuis un moment maintenant, mon coach c'est aussi mon conjoint, c'est vraiment devenu un projet on va dire pour deux, parce qu'il s'investit énormément et moi ça m'a vraiment reboosté. C'est un peu ce qui nous manque, je pense, en surf aussi. En fait, c'est un sport très individuel et je pense que moi, j'ai vraiment eu besoin à un moment donné de trouver autre chose que juste je vais surfer, je vais gagner pour moi et je vais. Enfin, c'est.
Ouais.
Au bout d'un moment, ça te nourrit pas, quoi. Enfin, pas moi en tout cas. Maintenant, c'est clairement un de mes moteurs, le fait qu'on soit un peu genre une équipe et que je fasse ça pour nous deux, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais j'en avais parlé un peu avec Perrine Lafont de ça. Et elle me disait effectivement, elle était t'es toute seule sur les skis ou sur ta planche, mais en fait on n'imagine pas. Mais derrière il y a un staff, effectivement des parents qui sont hyper impliqués. Alors elle effectivement encore plus parce que justement c'est l'équipe de France et notamment sur un sport le ski de bosse ou qui a été très gêné. Enfin. Qui a porté beaucoup de médailles sur les Jeux Olympiques avec les différents athlètes et sur laquelle la France l'équipe de France cartonne, quoi. On en parlait un peu de ce côté où finalement on voit que toi mais on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a derrière, tu vois. Et moi c'était une des questions un peu que je voulais te poser, c'est au final, qui t'as mentionné un petit peu ta maman sur la partie logistique. Effectivement, ton coach, je crois, c'est Simon, ton coach conjoint.
Oui,
je
sais pas si on va.
Bon, un moment, ça sera coach, un moment, ça sera conjoint.
C'est
La double casquette. Mais, est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui t'accompagnent? Je pense, tu vois, peut-être aussi par rapport à la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que t'es franchement, moi, je suis bluffé et je suis vraiment admiratif de la qualité du contenu que tu produis et de la quantité que tu fais. Je me demande mais comment elle fait. Donc, il y a d'autres personnes qui t'accompagnent peut-être sur cette partie-là ou sur d'autres, que ce soit la relation avec les sponsors ou quoi. Moi, je suis vraiment curieux de savoir comment tu t'organises par rapport à tout ça.
Alors, ça a été une évolution. Faut clairement dire que petit à petit, ça évolue. Quand je suis rentrée sur le World Tour en 2014, j'avais 20 ans. C'était mon année des 21 ans. Et à cette époque-là, Simon, donc, était mon coach, mais j'en avais deux autres à La Réunion.
Ouais.
Donc j'avais un préparateur physique, Joël Hoss, c'est le papa de David Hoss qui a fait 4e au JO de Londres en triathlon.
Ouais, je vois très bien. Je vois très bien qui c'est. Ouais.
Ouais. Et lui, enfin pour la petite histoire, La Réunion c'est assez petit en fait, et moi j'habitais près de la piscine qui gardait quoi, à laquelle il donnait des cours et tout aussi. Et en fait, il m'a vu en couche culotte, peut-être pas en couche dans la piscine quand même pas, mais en petit maillot bonnet depuis que j'avais 3 ans, quoi. Et puis, quand je suis rentrée à La Réunion, je me suis dit, bon, allez, je m'entraîne à fond et tout, et j'y vais pour de bon, là, pour les deux prochaines années. Et il a vu ça, il a dit, écoute, je veux bien te filer un coup de main et tout en prépa. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu mon premier entraîneur à moi, en fait. Parce que c'est vrai que jusqu'à c'était à peu près donc mes 18-19 ans, j'avais un peu fait avec ce que les sponsors te donnent, en fait, des team managers et leur cadre, qui n'est en fait pas forcément du tout professionnel, qui est très... freestyle, je dirais. Le surf, comme tu disais, tu parlais de la professionnalisation du surf. En fait, ça c'est vraiment venu là ces 10 dernières années. Et du coup, je pense que moi, ma carrière, ça représente bien ça au final. Quand j'ai grandi entre mes 12 ans et 18 ans, j'ai pas eu énormément de suivi et tout. Il y avait des choses qui se faisaient en équipe de France, mais après, voilà, les deux stages que tu avais, le stage que tu avais sur l'année et la compétition que tu faisais en équipe de France, le reste de l'année, sur le côté professionnel, ils ne pouvaient pas nous accompagner parce que c'était la Fédé et que de toute manière, ils n'avaient pas les moyens financiers pour nous accompagner. Toi, sur le côté professionnel, du coup, tu repassais dans les mains d'autres gens, c'était en gros les team managers et tous des sponsors, mais qui, eux, n'étaient pas forcément... juste pas forcément, d'une, ça change souvent dans les marques. Donc, un an, t'es avec quelqu'un, tu utilises des liens, l'année d'après, t'es avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment plus pour finalement de l'organisationnel et pas du tout pour un suivi de performance et tout. Ouais. Et du coup, en fait, moi, quand je suis arrivée à 18 ans et que je suis rentrée à La Réunion et que j'ai dit, bon, allez, je veux m'entraîner, c'est parti et je veux m'entraîner un peu à ma manière, parce que j'en ai un peu marre, en fait, de suivre et d'aller dans des choses qui me conviennent pas forcément, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner avec Joël une autre personne qui était du milieu du surf à La Réunion, qui s'appelle Nicolas. J'ai commencé comme ça. Et un an après, Simon est arrivé parce qu'en fait, cette année, c'était en 2013, je me suis qualifiée pour le World Tour. C'était fin 2013 et après que je me sois qualifiée, ce qui était un peu une surprise parce que je m'étais donné 2 ans et puis finalement la première année je me suis qualifiée. j'étais un peu surprise, puis je me disais bon, va peut-être falloir que je m'entraîne un peu différemment. Et c'est vrai que tous ces questionnements, bah je me le suis fait avec mes parents et aussi avec Joël et Nicolas, en disant bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer tout ça et que je sois encore plus prête pour le World Tour l'année prochaine, parce qu'en fait je suis pas prête et on le sait très bien quoi. Là pour l'instant, je pensais pas être qualifiée comme ça aussi vite. Ouais. Et du coup, Simon, qui lui venait de finir son DU de préparation mentale, enfin, il s'est joint à mes deux autres entraîneurs et on a commencé à bosser ensemble la prépa mentale, ce qui me paraissait, enfin, c'était pour moi, il me faut absolument ça parce que je me sentais pas prête du tout, en fait. J'étais là, il faut absolument que je sois plus forte dans ma tête, sinon je vais m'écrouler, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça a un peu évolué comment je me suis entourée et que ce soit pour ma prépa personnelle, enfin, et puis après tout le côté média et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, par exemple, jusqu'à 2013, j'avais pas d'Instagram, quoi. Ça me, enfin ouais. Si j'avais un petit Facebook, je sais même plus, mais et je suis arrivée sur le World Tour en 2014. Et là, en fait, j'ai vu que toutes les filles qui étaient entourées, soit de marque ou quoi, parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai pas de sponsor majeur non plus, en fait. Donc, je suis arrivée sur le tour et toutes les filles, avaient un photographe, un caméraman. Moi, je suis arrivée sur le tour aussi. J'avais une de mes meilleures amies qui était sur le tour. Elle s'appelait Bianca. C'était une Sud-Africaine. Okay. Et c'était sa deuxième année sur le tour. Et en fait, pareil, elle a fait la première année. Et puis la deuxième année, elle a commencé à se dire, faut que je fasse plus de contenu. Du coup, elle a pris, pareil, un photographe. Donc, moi, je logeais souvent avec elle. Et puis, elle avait son photographe ou son caméraman. Et puis, elle créait vachement plus de contenu. Elle était déjà sur les réseaux et tout ça. Et ouais. Effectivement, j'avais mon petit Instagram aussi, moi, mais j'avais pas du tout réalisé que c'était en fait une vraie profession.
Bah ouais, clairement, ouais.
Et du coup, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse là-dessus. Et Simon, en fait, qui m'avait aidé vraiment sur toute la partie mentale et gestion, ça a été d'ailleurs une des premières choses, parce que lui, du coup, il vient du triathlon aussi à la base, il fait beaucoup de triathlon. Et une des premières choses qui m'a fait travailler, c'est l'organisation. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un cadre un peu freestyle et j'ai toujours été freestyle. Je pense que c'est un peu ma personnalité aussi, mais j'avais justement aucune organisation. Et jusqu'à ce que j'ai en fait un préparateur mental, personne ne m'avait parlé d'objectifs à court terme, d'objectifs à moyen terme, d'objectifs à long terme, de savoir qui est-ce qui fait partie de ton entourage, savoir qu'est-ce qui aussi ton entourage, de quelle manière, c'est vraiment en fait de réaliser que j'étais vraiment l'actrice de ma carrière et tout ça. C'était un peu, jusqu'à maintenant, j'avais l'impression en fait que j'avais suivi le flow à droite à gauche avec mes résultats, les opportunités que j'avais eues et tout.
Et ouais, tout qui roule, quoi.
Voilà. Et puis là, vraiment, mais alors lui, il comprenait pas que je sois à ce niveau sans avoir aucune organisation. Il était là, mais attends, mais. Mais là, il va falloir se réveiller, cocotte. Sinon, tu vas rater le train, quoi. Vraiment, il m'a fait un peu un électrochoc et j'étais là, ah ouais, d'accord, et du coup, dans toute cette partie d'organisation, il m'a fait aussi réaliser que il fallait que je commence sérieusement à bosser le côté réseaux sociaux, création de contenu et tout ça, parce qu'en fait t'as pas le choix. Et en plus, j'étais face à des machines de guerre en face, elles avaient déjà des centaines de milliers de followers et tout, enfin c'était Et du coup, bah, je me suis mise un peu doucement à faire ça aussi. Et il m'a beaucoup aidé aussi à créer du contenu, mine de rien, parce que bah, c'est pareil, quand t'as pas de sponsor principal, quand tu peux pas te permettre de payer 500 euros un photographe ou quoi, ou 500 euros, je dis, ou plus ou moins, bref. Bah c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément, enfin, faut, ça te prend du temps, quoi, puis faut trouver des outils et ça te prend du temps. Et je me souviens, en 2013, GoPro m'avait envoyé une GoPro et on avait pratiquement, enfin, on avait vraiment bien rentabilisé le truc. Et voilà, et puis du coup je mettais tout le monde à contribution, allez papa, maman, faites-moi une photo ici, faites-moi ça. Et ça continue, ouais, un petit peu comme ça maintenant. Pour le coup, la création de contenu, c'est vraiment Simon et moi qui nous en occupions, et ouais. Et où ma mère, quand elle est là, elle va me filmer quand je fais du surf et tout.
Ok, trop cool.
C'est elle qui est avec moi en Australie là.
Ok.
Du coup, voilà, pour ce qui est création de contenu, c'est vraiment moi et c'est vraiment Simon et moi et ceux qui m'accompagnent pour m'aider à juste créer les images. Mais et puis tout ce qui est autour après, maintenant plus j'avance et plus je m'entoure quand même. Je suis avec une agence de com aussi pour tout le côté média. Ouais. Pour avoir un peu moins à gérer, j'ai un comptable, une avocate, donc c'est vrai, pour toutes les parties qui pour moi me paraissent, enfin, d'une, j'ai pas du tout les connaissances et j'ai pas du tout envie de prendre le temps de faire ça et j'ai pas envie de faire de bêtises et tout, donc voilà. Mais pour ce qui est création de contenu, organisation encore de mes voyages et tout ça, du coup la partie entraînement, bah, tout ça, c'est Simon et moi. Et même la relation avec les sponsors, c'est un peu mon avocate et nous. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je travaille maintenant.
Ok, bah écoute.
Mais tout ça a évolué.
Mais ouais, ça évolue beaucoup. Enfin, après, c'est une organisation, il faut trouver un équilibre.
Ouais.
Et puis c'est aussi du management humain, donc t'as des gens qui partent, t'as des gens qui arrivent, chacun a des nouveaux projets, donc c'est sûr que ça évolue en permanence. Mais merci infiniment de partager tout ça et d'être hyper transparente, parce que tu vois, c'est un truc qui est invisible dans le sport, tu vois, et on s'en rend pas compte.
Ouais.
Et tu vois, quand tu dis que effectivement tu vas travailler avec une avocate et un comptable, et ben alors forcément tu parles en l'entrepreneur qui sommeille en moi et qui a monté plusieurs sociétés et qui, tu vois, et qui adore ça et qui comprend, enfin, tu vois, quand tu me parles de tout ça, je suis pas du tout étonné, mais je vais te dire, après quasiment 90 interviews, c'est la première fois, tu vois, que qu'une athlète ou qu'un invité me dise je travaille, effectivement, il faut s'entourer de professionnels, parce que quand tu gères 80 000 euros, 100 000 euros de budget par an, bah il faut compter les dépenses et pouvoir calculer les recettes aussi de ce que tu fais à côté, et enfin, moi, ça me paraît entièrement logique. Et puis quand t'as des contrats de droit d'image, ça me paraît complètement aussi logique de travailler avec un avocat, et on n'aborde jamais ce sujet, tu vois, et j'ai l'impression que
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je sais pas si c'est un tabou ou c'est un truc, peut-être que les athlètes pensent que c'est pas sexy et que ça vaut pas le coup d'en parler, mais c'est une partie obligatoire, quoi.
Clairement, ça a été, bon, moi, c'est venu un peu plus tard. Au final, c'est vrai qu'on, ça fait 2-3 ans que je travaille avec, ça fait 2 ans que je travaille avec une avocate. Je pense que notre système avec Simon, où on avait vraiment tout fait tout seul pendant un moment, était arrivé un peu à bout. On avait réussi à faire plein de trucs, mais c'était arrivé un peu à bout et on avait besoin de déléguer un peu. Au bout d'un moment, c'est plus possible de tout faire tout seul. Et puis, on n'est pas, c'est pas nos métiers non plus. Il faut savoir. En fait, c'est vraiment le. Après, c'est des moments un peu. C'est assez difficile. On aurait pu continuer comme ça, mais bon. Après.
Non, mais faut progresser. Si tu veux progresser, faut t'entourer, quoi.
Exactement. Ouais. Et puis ben moi j'étais là parce que dans le sport après il y a plein de façons de faire aussi. Tu peux ne pas avoir d'avocat et tu peux prendre des agents. Tu peux, ça peut être quelqu'un de ta famille qui le fait, ça peut être un ami parce que enfin il y a, c'est vrai qu'il y a pas de façon de faire et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens n'en parlent pas trop parce que ben c'est du, au final c'est des choix assez personnels.
Ouais.
Voilà, après moi les agents j'ai du mal à faire confiance je pense avec tout ce que ouais je sais pas peut-être j'ai l'habitude de travailler avec des gens très proches et je sais qu'ils me veulent que du bien et jusqu'à maintenant je sais pas pourquoi dans le surf en tout cas on a eu peut-être des a priori un peu sur les agents et du coup bah, j'ai fait 100 pendant un moment et puis après là avec l'avocate, moi, pour moi, ça me va très bien aussi. Il y a une certaine rigueur et tout que j'aime bien.
Ouais.
Et ouais. Voilà.
Non, et puis en plus, moi, je suis pas du tout étonné que tu t'entoures parce que quand tu fais la liste de tous les trucs auxquels tu dois penser, mais je me dis, waouh, enfin, comment ça peut reposer sur les épaules de personnes? Parce que voilà, en plus de ça, il faut le temps de s'entraîner, de faire les compètes, de se reposer. On pourra reparler un petit peu de ta préparation physique, mais ça a l'air hyper carré et hyper professionnel. Donc, j'imagine, en tout cas, tu laisses l'impression de rien laisser au hasard. Donc, tu vois, il faut avoir le temps de tout ça et tu peux pas effectivement gérer une dizaine de sponsors, parce que toi, je crois, que c'est à peu près le nombre que tu en as en tout. Et tu peux pas effectivement gérer les contrats qui vont te demander et puis en même temps la création de contenu qui vont te demander, gérer enfin le planning qu'ils ont comparé à ton planning de compète, enfin prévoir tout le contenu en avance, faire les montages, faire les trucs, enfin waouh. Donc tu vois, moi je suis pas étonné et en plus c'est un cercle vachement vertueux parce que tu l'as dit, t'es arrivé, il y avait personne. Et t'as commencé à demander effectivement aux gens qui étaient autour de toi, que ce soit à ta maman ou à Simon, et petit à petit en fait bah tu progresses, du coup t'as des meilleurs sponsors, du coup tu peux un peu plus déléguer, du coup tu fais aussi du meilleur contenu parce que tu progresses, tu vois, et enfin du coup c'est vachement vertueux en fait au final, c'est le pas est dur à franchir mais
ta faveur, quoi. Où faut on va dire faut y croire quand même parce que franchement Instagram à la base ou des trucs comme ça je vais jamais y arriver enfin déjà bon moi, je pars de loin, j'étais à la base quelqu'un qui disait non mais pourquoi je vais mettre une photo de moi à la piscine là et qu'ils s'en foutent les gens de savoir ça franchement enfin ça me paraissait complètement absurde que quelqu'un veuille savoir de ce que je faisais de mes journées quoi et puis bah petit à petit finalement tu te prends en jeu et c'est vrai que tu te rends compte que bah t'as une vie un peu déjà différente donc c'est vrai que c'est quand même mine de rien c'est intéressant enfin je vois moi j'ai bien envie de savoir ce que d'autres sportifs font quand ils sont en déplacement et tout ça quoi donc c'est tu te rends compte que petit à petit que c'est assez intéressant et puis après la création de contenu, c'est vrai que ça prend du temps. Il y a des fois où j'aime bien et il y a des fois où j'aime moins. Des fois, c'est pas drôle quand tu sens que tu le fais vraiment pour le faire, que c'est important de toute manière. Et puis c'est tous les jours en fait. C'est surtout ça qui prend du temps.
Mmh. Ouais.
Mais j'aime bien et puis voilà. Mais là, c'est vrai que je me suis mis un autre petit challenge quand même en reprenant les cours. J'avais déjà beaucoup de choses à faire, mais je l'ai senti que l'année dernière, justement, j'en avais pas assez parce qu'il y avait pas assez de compétition, j'avais pas assez d'objectifs et je me suis dit bon allez. Non, mais j'ai une opportunité aussi avec ce qui est chouette dans ce cercle, comme tu parles, assez virtueux. un de mes derniers sponsors, c'est la FDJ,
ouais.
La Française des Jeux, et ils ont créé tout un team pour nous accompagner pour, c'était les Tokyo 2020, ensuite les Jeux d'hiver en 2022 et ensuite Paris 2024. Et en fait, ils ont des liens avec des écoles en France, que ce soit l'UM Lyon, une autre école de Sciences Po sur Paris et une autre, je crois. Et du coup, ils avaient des passerelles qu'on pouvait qu'on pouvait avoir. Pour moi, c'était la première passerelle. Ça fait quelques années où dans le surf, c'est pareil. J'essaye de voir quel genre de formation, quel genre d'études je pourrais faire en parallèle, parce que on a quand même un petit peu de temps, mine de rien. Et puis finalement, il y avait toujours du présentiel. Enfin, ça a jamais été évident pour moi de trouver quelque chose d'adéquat par rapport à ce que je faisais. Et puis là, c'est tout online et tout, et c'est chouette. Donc voilà. Mais je galère.
Okay. Et par curiosité, t'as choisi quel cursus? Tu fais bien de mentionner l'EM Lyon. Je sais que je travaille. La boîte que j'ai rejoint là il y a un an qui s'appelle School Lab est très partenaire de l'EM Lyon, et on voit à quel point c'est une école qui est assez novatrice, tu vois, et qui prend des risques et qui fait des choses assez nouvelles. Trop cool. Enfin, et tu vois, je suis hyper agréablement surpris que quand j'ai appris justement que tu avais repris les cours avec eux, et en même temps, je suis pas du tout étonné parce que je les vois très novateur et tenter plein de choses, donc à plein de niveaux, donc super chouette. Et ouais, toi, du coup, c'est quel cursus que tu fais?
Du coup, c'est le PGMO. C'est un cursus. En gros, tu peux l'intégrer que si tu as 10 ans d'expérience de vie professionnelle. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui ont entre, on va dire, 30 et 50 ans et qui veulent soit changer de métier, soit juste approfondir quelques connaissances, ou qui changent de poste et qui veulent juste prendre un certificat dans le programme pour être un peu plus calé là-dedans. Donc, il y a un petit peu de tous les profils. Il y a pas mal de sportifs de haut niveau quand même. Ouais. Et c'est assez... moi, je prends tout le programme, et il y a, en gros, dans le PGMO, il y a 10 certificats sur 10 sujets différents qui durent à chaque fois quelques mois. Et puis, tu peux les prendre un peu à la carte, quoi. Tu prends les uns après les autres. Il n'y a pas forcément, c'est quand même assez libre, et moi, c'est ce que j'aime bien, quoi.
Ok. Bon, trop chouette. Et en plus, écoute, je suis pas étonné qu'il y ait d'autres sportifs de niveau, et ça doit te faire tout drôle de te retrouver un peu la plus jeune du cursus, mais super chouette, super chouette. Et tu sais un petit peu sur quoi t'as envie que ça débouche. Là, t'es en pleine carrière, t'es vraiment au top niveau, et qu'on se le dise aussi, il y a quand même un événement sportif qui est pas du tout anodin, parce que c'est la première fois que le surf arrive au jeu. Donc j'imagine que tu dois pas trop avoir l'esprit tourné forcément sur la suite, et plutôt concentré un peu sur le quotidien et le sportif. Mais est-ce que t'as des aspirations, ou des fois t'as des choses un peu qui te font vibrer pour l'avenir? C'est quelque chose auquel tu songes, parce que tu vois, j'ai l'impression, en attendant, que t'es vachement consciente, tu vois, de ce que tu vis, de l'opportunité que c'est, et de la chance un petit peu que t'as de vivre de cette passion, tu vois. Est-ce que du coup, t'as eu des réflexions sur ce que tu voulais faire après?
Ouais, bien sûr. J'ai déjà bien ma petite idée. C'est même des choses qui me font, on va dire, totalement autant rêver que ce que je fais maintenant. C'est ça qui est cool. J'ai toujours eu une sorte de personnalité où on va dire qu'en fait il y a plein de choses que j'aimerais faire depuis tout le temps, et j'ai jamais eu peur de me dire si j'ai plus le surf en compétition, qu'est-ce que je vais faire, quoi. J'ai toujours eu vraiment d'autres centres d'intérêt et d'autres envies. J'ai déjà été dans la situation aussi, au final, dans ma carrière, où finalement j'ai cru que c'était assez proche de la fin quand j'avais plus de quand j'ai perdu mon sponsor là, quand j'avais 18-19 ans et que en fait je pensais que ça allait être le début et puis bah finalement j'avais plus de soutien financier ou quoi, donc j'étais en fait qu'est-ce que je vais faire, peut-être que je peux repartir aux études, enfin tu vois c'était un moment où j'aurais pu choisir l'université et puis je me suis dit bon allez non je me donne encore un ou deux ans. Et puis en fait le surf c'est quand même aussi très on est sur le World Tour, mais chaque année, en fait, il faut se battre pour sa place dans le top 10. 17, c'est quand même très peu. Et 10, c'est encore moins.
Ouais, c'est vraiment un élite, quoi.
Chaque année, il faut se battre pour cette place dans le top 10. Et en fait, chaque année, je sais que ça peut s'arrêter, quoi. Ouais. Et si ça s'arrête, ben, je ne vis pas de la même façon parce que la deuxième division, je pourrais être sur la deuxième division. Mais la deuxième division, en fait, même si tu gagnes pratiquement tous les événements, tu rentres, enfin, tu couvres tes frais, quoi. Tu vis, tu fais pas, tu vis pas, quoi. Pas quand t'as 27 ans, que t'as des loyers à payer, que t'as une voiture. Quand je suis rentrée sur le tour et que j'avais 20, 21 ans, ben, ouais, super. Moi, je voulais vivre de, enfin, je voulais faire mon rêve, aller faire les compétitions, être sur le World Tour et tout ça, et c'était top. Et en gros, je m'étais jamais acheté une voiture parce que je passe de toute manière tout mon temps loin de chez moi, donc il y avait pas de souci. Mais là, une fois que t'as des responsabilités et tout, bah je pourrais pas me permettre de faire 3-4 ans sur la deuxième division. Je pense pas quoi. Donc en gros, bah chaque année, je sais que ça peut être la dernière un peu. Donc, je pense à l'avenir.
Ok.
Voilà.
C'était des petites idées, du coup
Du coup, bah, j'aimerais bien un peu utiliser quand même de tout ce que j'ai fait dans ma carrière et de tout ce que mon entourage a pu m'apporter et comment j'ai vu que ça, justement, ça a pu m'aider, l'entourage. En fait, j'aimerais bien un jour pouvoir entourer des jeunes, peut-être des jeunes filles, si c'est possible. Un peu plus tard, on aimerait aussi avec mon conjoint monter un peu des stages de surf, on va dire, mais un peu multisport aussi parce que moi j'adore un peu toucher à tout. Au final, ça fait aussi partie de mon entraînement de pouvoir diversifier un peu les disciplines et des fois quand tu te pousses dans un autre sport, en fait, bah, ça t'aide pour ton sport, je trouve. Bon, après, effectivement, le surf est quand même c'est un sport assez libre et vaste. C'est pas comme si c'est spécifique, il y a de la technique, mais n'importe quel sport peut t'apporter. On est aussi beaucoup dans le dépassement de soi, dans l'élément, dans la nature et tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que se dépasser dans un autre sport, en fait, t'aide à. Quand le surf est tellement, c'est tellement quelque chose que tu connais que des fois, ben, c'est plus dur de sortir de ta zone de confort, quoi.
Ouais, je vois. Et t'as mentionné les stages, mais il me semble que t'as déjà commencé à en faire, non? Il me semble que cet été, j'avais vu passer. Bon, alors, faut que je fais la petite confidence, peut-être au bout de 50 minutes, mais moi, je suis un énorme fan de ton contenu et en fait, je prends trop de plaisir à te suivre parce que. Je sais pas, je trouve que à la fois tu dégages beaucoup de professionnalisme et en même temps beaucoup de bonnes vibes, tu vois. On n'a pas là du tout l'impression que, non, mais tu vois, il n'y a pas trop la notion du sacrifice, du work hard, enfin, tu vois, du no pain, no gain et tout.
Je pense que c'est parce que c'est un sport, comme je disais, c'est quand même très libre et en surf, on est encore énormément à s'entraîner vraiment différemment, quoi. Et comme il n'y a pas trop de cadre, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Et à un moment donné, bon, faut bien faire des choses que tu n'as pas envie, mais il y a aussi plein de façons de travailler en ayant envie. Et voilà. Et désolé, je t'ai coupé.
Non, mais on peut digresser parce que tu vois, c'était un. Des fois, je me dis oui, tu vois, Instagram, faut jamais oublier que c'est la partie des gens. c'est la partie submergée de l'iceberg, de ce que les gens veulent te montrer. Et c'est pas toujours la vie réelle, mais toi, tu partages beaucoup, beaucoup de ce que tu fais et toujours avec de super bonnes vibes. Donc, et ça a l'air vraiment sincère et spontané. Tu vois, des fois, tu sens quand c'est faux. Tu vois, la caricature un peu de l'influence où tout est parfaitement posé, il y a pas grand-chose de spontané, ça se ressent, tu vois. Enfin, en tout cas, moi je le ressens. Peut-être que j'ai pas un bon flair pour ça ou un peut-être que mon flair est bon ou mauvais, je sais pas, mais en tout cas, ouais, avec toi, tu vois, on sent que tu mènes un peu la vie de tes rêves et que t'en profites, quoi, et que c'est et certes c'est du haut niveau et certes il y a des moments qui sont hyper durs. Comme les défaites, les entraînements, les jours où t'as pas envie, les petites déconvenues qui peut arriver aussi dans le quotidien de n'importe qui. Mais on sent que tu kiffes, quoi, et que tu profites et que t'es là et que tu comptes, enfin, que cette place que t'as, tu la savoures au maximum. Donc voilà, c'était mon petit instant de gratitude et d'admiration. C'est partagé et vraiment je voulais te féliciter, quoi, parce que c'est bien fait. Bon, voilà, en tout cas.
Merci. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que ton flair est plutôt bon. Non, mais comme dans tout, il y a des moments qui sont plus chiants, il y a des moments où c'est pas drôle. Comme je disais, ça me motive de faire... mes compètes et tout pour deux, ben ouais, mais quand je perds aussi pour deux. Donc il y a des moments, en fait, c'est effectivement complexe. Simon, par exemple, un des sacrifices qui a été fait, Simon, par exemple, je lui ai demandé de ne pas retrouver un travail à un moment donné pour travailler plus pour moi parce que j'avais besoin de son temps. En fait, il n'y a pas tout le monde qui est capable, je pense, de faire ça parce que c'est une sorte... Enfin, c'est pas stable, un emploi avec moi, parce que lui, en fait, chaque année aussi, c'est chaque année, est-ce qu'il va y retourner dans le tour ? Enfin, il y a de la... Mais je pense que tous les deux, on est des gens qui font les choses à 100% et qu'on est conscient de ça, qu'on aime aussi la simplicité et on n'a pas... Bon, bah, si on n'est pas sur le tour l'année prochaine... Bon, on fera d'autres choses. Il y a plein de choses on vit aussi assez simplement. Hein. À La Réunion, on a un petit appartement avec une petite cour derrière où c'est notre salle de sport. On fait nos entraînements ici. À La Réunion, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. On a un maillot de bain et des savates et voilà. C'est vrai que je pense qu'on se suffit à vivre avec pas grand chose aussi, et c'est vrai que ça nous fait pas trop peur de se dire bon bah ouais, si l'année prochaine t'es pas sur le tour, ben c'est dommage, mais en même temps t'auras fait déjà énormément de choses et c'est chouette aussi. Donc faut juste pouvoir prendre un peu de recul à certains moments. Quand la pression, elle est un peu haute et tout ça, ben faut aussi réaliser. Et je pense que j'ai aussi ça de ma maman qui est une grande philosophe de la simplicité, qui est chaque matin est émerveillée par boire un café, passer devant un arbre en fleurs. Enfin, je pense que c'est vraiment ça qui fait que cette attache à la simplicité et aux choses de la vie que je sois surface pro ou pas, la vie c'est chouette, quoi.
ouais il faut en pro il t'as raison il faut en profiter et effectivement, tu vois, on a tous des vies différentes, mais moi je considère un peu que le but de la vie c'est d'être heureux, quoi. Donc peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, essayer de s'en sortir pour être le plus heureux possible, mais je pense que c'est un choix aussi, le but, il
y a des gens, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et ils sont pas heureux, quoi. C'est à un moment donné, c'est une certaine conscience à avoir quand même, je trouve, pour être heureux, faut être... Après, j'ai la belle vie aussi, enfin, il y a plein de choses qui font que ça... C'est peut-être pas aussi facile, hein. Je suis peut-être dans des conditions qui font que c'est simple de dire ça, hein. Mais je pense qu'il y a quand même une partie de positionnement, quoi. À un moment donné, tu choisis aussi de te lever tous les matins et de dire, OK, aujourd'hui, ça va être une bonne journée, quoi. Ou ça va être une journée.
Ouais, carrément. Ouais, exactement. Et puis, tu disais que tu étais dans une situation confortable, mais tu vois, il y a eu aussi énormément de travail et tu t'es donné entièrement les moyens, tu vois, pour arriver dans cette situation-là.
Ouais,
et des fois, on oublie trop que... Moi, une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est arrête de penser à la ligne d'arrivée, profite du chemin, quoi. Et effectivement, tu vois, quand tu regardes effectivement 10 ans après avec les podiums, les médailles, ce genre de choses, bah tu peux te dire oui, certes tout va bien, mais tu vois, bah, pendant les 10 ans, t'as profité aussi, quoi. Et c'est ça qui fait que on est un peu plus heureux tous les jours. Mais bon, bah cool, on a eu un peu cette petite pensée philosophique et c'était plutôt chouette. Et je sens que c'est une question que t'as dû te poser plusieurs fois, soit avec ta maman, soit avec Simon. Mais moi, je voulais te poser un peu une dernière question, parce que le temps passe pas mal quand même, et j'ai pas envie de même si moi je me verrais bien occuper toute ta journée de confinement, mais c'était un petit peu ouais sur ta vision du surf et la façon avec laquelle tu l'avais vu évoluer. Peut-être que, alors moi je la vois effectivement d'en dehors, toi tu la vois, je la vois avec aussi mes préjugés, mais mon filtre, mais j'ai grandi moi avec des films comme Point Break. J'ai grandi avec des types un peu comme Kelly Slater ou Laird Hamilton, qui étaient un peu des mecs un peu barjots, à la fois qui ont beaucoup apporté au sport, je pense, et qui sont devenus des vraies icônes. Mais il y avait quand même, tu vois, sur le surf un peu une réputation un peu de sport de rebelle, un peu hippie. Là aujourd'hui, quand je te vois, j'ai l'impression que ta préparation physique, elle est hyper travaillée, que tu soignes ta nutrition. T'as parlé tout à l'heure de préparation mentale et on a vu, tu vois, durant tout cet échange à quel point c'était exigeant. Est-ce que tu penses pas que ouais le j'ai du mal à formuler ma question, mais ouais, est-ce que tu penses pas que ouais le surf a un peu souffert justement de cette réputation un peu sulfureuse qu'il a pu avoir il y a 30 ans et que aujourd'hui finalement il a complètement évolué et que c'est plus du tout typiquement tout ce que je tous les pré enfin toutes les la caricature que je viens de te dire, quoi.
je sais pas si ça en a souffert. Je pense que clairement c'est ce que c'était. Je pense que clairement il y a des gens qui le vivent comme ça, le surf, encore parce que ça peut, je comprends vraiment que ça puisse être une philosophie de vie avant de se dire que on va être là à essayer de gagner des points et des compétitions. Enfin, je pense que c'est vraiment un sport, c'est un sport outdoor, mais comme comment dire, comme les gens qui faisaient de l'escalade et pour qui c'était impensable de faire de l'escalade en salle, et
bien sûr.
Pour eux, c'était leur vie, c'était d'être dehors, c'était d'être sur les montagnes, sur les falaises. Ça avait ni queue ni tête de se dire qu'ils allaient s'enfermer dans une salle pour faire de l'escalade, quoi.
Ouais.
Bon, on n'en est pas encore là dans le surf, par exemple, mais c'est un petit parallèle. Je pense qu'il y a des gens qui vivent le surf comme ça, comme un lifestyle, que ce soit peut-être effectivement le mec un peu rebelle, ou que ce soit maintenant il y a beaucoup l'image de la fille qui fait un peu du yoga et qui va surfer des petites vagues en longboard, et tout, ouais, ça c'est des lifestyles, et je trouve ça chouette aussi de pouvoir avoir le surf pour être au contact de la nature, ces sensations de glisse qui sont incroyables, enfin je trouve ça cool. Mais effectivement, ben tout le côté professionnel,
ouais, sur le circuit pro, ça existe plus, quoi, ce côté lifestyle. J'imagine.
Pro, ben non, voilà, effectivement, on est tous ben encore une fois, on a des tout le monde quand tu grandis, quand tu en fais ton métier, ben à un moment donné t'as des responsabilités, donc tu le prends quand même un peu plus au sérieux que juste effectivement ta session de surf du dimanche. Mais Et puis, je pense que petit à petit, il y a de plus en plus d'étapes, il y a de plus en plus de jeux, d'argent quand même en jeu. Les étapes aussi, donc c'est sur différents spots, donc faut avoir toute une préparation matérielle derrière, donc avoir différentes planches, travailler avec un shaper pour pouvoir aller surfer des vagues, des grosses vagues et tout. Ben quand aussi c'est pareil, quand tu passes à travers une blessure, ben là tu, enfin c'est pareil, professionnellement parlant, tu peux plus faire de compète, peut-être que t'as des contrats de sponsors qui disent que bah si t'es blessé plus de 3-4 mois et que tu participes pas aux compètes, ben eux ils te payent pas, enfin non, clairement de plus ça passe, plus le, comme les autres athlètes on va dire, je pense que les surfeurs et tout ça se rendent compte à quel point il y a tout ce professionnalisme en fait derrière, effectivement, pour être en forme, pour être suivi, pour être performant, parce que mine de rien, en fait, jusqu'à maintenant, on avait 10 coupes du monde et c'était le premier du classement qui était sacré champion du monde. Donc c'est pareil, pour être consistant sur une année entière qui débute en février qui finit en décembre, avec des voyages tout autour de la planète et tout, faut avoir une hygiène de vie de ouf quoi. Et du coup, je pense que petit à petit, effectivement, le surf c'est un peu de plus en plus a évolué dans ce sens parce que d'une comme tout, de toute manière ça évolue. Et peut-être qu'avant aussi, il y a eu aussi une sorte de révolution dans le surf. Il y a une dizaine d'années aussi, il y a eu de plus en plus de Brésiliens qui ont mis le niveau très haut, qui ont amené du surf aérien, donc assez avec des nouvelles manœuvres et tout. Du coup, ceux qui étaient sur le tour, ils ont dû de nouveau évoluer aussi pour s'ils voulaient être aussi fort, enfin, c'est en constante évolution, donc t'es obligé de t'adapter, de travailler, d'aller chercher un peu plus loin si tu veux rester parmi les meilleurs, quoi. Pas physique principalement parce que j'ai aussi, depuis que je suis sur le tour, en fait, j'habite à La Réunion et il y a eu toute cette partie un peu crise requin qui m'a pas permis d'aller dans l'eau autant que je voulais et pour moi c'était non négociable, j'étais obligée de travailler à côté pour essayer de pas trop perdre par rapport aux autres, quoi.
Ouais. Et tu penses que la ligue ou même je sais pas, ou certaines institutions ont essayé de bosser justement sur cette image d'un surf qui change, qui se professionnalise. Je pense que il y avait effectivement le but des jeux qui était hyper important. Enfin, en tout cas, l'entrée du surf dans les sports olympiques, je pense que ça a aussi beaucoup contribué. Alors, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, tu vois. Mais moi, je vois beaucoup même dans la communication, je vois que ça a évolué énormément, quoi, la façon avec laquelle le surf est présenté, quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord. La World Surf League y est pour beaucoup. C'est en fait depuis que je suis rentrée sur le tour en 2014. Moi, je suis rentrée sur le tour l'année où ils ont changé de nom. Avant, ils s'appelaient l'ASP, Association. Ouais. Je sais plus, professionnel, surfing professionnel, ouais, c'est ça. Et c'est devenu la World Surf League. Et depuis ce moment, ils ont vraiment essayé de eux aussi de se professionnaliser mine de rien dans le contenu pour avoir de plus en plus de, parce qu'en fait le gros problème du surf comparé à d'autres sports pour aller chercher des sponsors, c'est que on n'a pas d'heure et de date pour notre compétition, donc on peut pas vendre des droits télé en gros.
Ouais.
Et du coup ils ont dû se professionnaliser la ligue en gros créateur de contenu clairement, et essayer de se suffire à eux-mêmes et de proposer tant de vues à des sponsors et tout ça.
Ouais, c'est un business model qui est différent effectivement de d'autres sports où on va vendre effectivement du droit télé et la ligue est obligée de elle-même s'autogérer en fait à ce niveau-là, quoi.
Voilà. Et en fait, petit à petit, on la voit évoluer. Bon, c'est peut-être parti un peu dans des extrêmes, mais clairement, maintenant, c'est une production. Enfin, c'est une ligue de sport, mais c'est une prod qui fait que du contenu et qui essaye de mettre en avant les athlètes et tout. Bon, pas forcément tout le temps. Des fois, c'est un peu complexe. Par exemple, je trouve pendant le Covid, ils ont pas beaucoup de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de compètes. Du coup, ils ressassent beaucoup des trucs. Enfin, bref. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que je pense que la World Surf League en a beaucoup joué là-dessus et a vraiment participé au fait que petit à petit a montré un peu plus aussi ce que les surfeurs faisaient parce que à l'époque encore une fois c'était peut-être pas cool parce que Kelly Slater peut-être que c'était un rebelle et tout mais à un moment donné enfin, il a un site de champion du monde, donc il y a quelque chose qui s'est passé et que je pense qu'on n'a pas vu, quoi.
Et puis moi, j'ai même le souvenir d'une interview de lui où justement, en fait, il explique qu'il s'est mis à la préparation physique parce que quand il se gamelle, s'il a des muscles un peu plus gros, il s'en remet plus vite, qu'il a besoin de récupérer beaucoup plus. Je crois qu'il a vachement soigné son alimentation aussi à un moment donné, je crois qu'il
a vraiment...
Ouais. Donc, il fait partie pour moi, c'est un peu justement l'image du jeune au début un peu rebelle qui arrive avec cette culture lifestyle et qui, en fait, pour monter en puissance, en fait, se professionnalise et tout en gardant un peu cette image, forcément, très, très garçon, très masculine, qui lui va aussi très très bien, tu vois. C'est moi je suis un grand fan, tu vois, mais oui, du coup c'était un peu la caricature pour moi, tu vois, il montre aussi que le sport a changé, quoi.
Voilà, donc je pense que effectivement tout ça a fait que, et le surf féminin dans tout ça c'est juste le jour et la nuit. Il y a 10 ans et maintenant, c'est le jour et la nuit. Et quand maintenant, moi, j'ai 27 ans et que je regarde les vidéos des jeunes nénettes là, qui ont 13-14 ans, mais elles sont juste ouf. C'est juste là, elles ont justement apporté. Moi, je pense dans ma génération, on a peu le surf aérien et tout ça. Moi, je l'ai pas du tout, par exemple. Et les jeunes filles qui arrivent, elles font déjà des airs et tout. Elles repoussent d'autres limites que nous on a pas poussées parce qu'on a déjà poussé d'autres limites. Mais le surf de féminin dans 10 ans, ça va être génial à regarder. Moi, j'ai trop hâte.
Trop cool.
Donc je pense vraiment que tout ça a fait. En fait, je pense que notre entrée au jeu. Maintenant, ça confirme un peu tout ça, mais c'est vraiment grâce à tout le travail quand même qu'il y a eu derrière. Et du coup, effectivement, on a eu les Jeux et maintenant, pour le coup, enfin en tout cas moi qui est française, quand je dis maintenant je vais aller aux Jeux et tout, les gens ils me regardent d'une autre manière que si je dis j'ai gagné une Coupe du Monde à Fidji, ça leur parle pas trop, quoi. Alors que parce que on n'est pas un pays où on, effectivement le surf c'est pas le sport national.
et tu penses que ça va? Alors, peut-être que le surf est pas le sport national, peut-être médiatiquement parlant, mais on est quand même hyper bien servi, je trouve, en termes de vagues déjà. Enfin, tu vois, pour avoir passé au moins une bonne dizaine d'été à la cano, tu vois, et pour avoir vu effectivement quelques compètes là-bas, il y a de quoi faire, tu vois. Qu'est-ce qui me manque à la France là pour qu'on devienne une très grosse nation du surf? Et pour moi on est déjà une belle nation du surf parce que, tu vois, enfin, ta présence parmi la première ligue depuis, quoi, ça va faire 6-7 saisons déjà, tu vois, ou quelque chose comme ça. 6, OK. Et sachant que voilà, il y a quand même que 10 femmes qui peuvent le faire et que il y a un gros trust effectivement, comme tu l'as dit, avec les États-Unis, Hawaï, c'est encore un peu à part, mais les Australiennes, ouais, tu vois, déjà on est là, quoi.
Je suis la seule non américaine ou australienne, la seule sur 17.
Ouais, c'est dingue, tu vois, et ça montre, tu vois, déjà que
Je me trompe parce que, en fait, sur le papier, c'est pas vrai parce que, par exemple, Tatiana Weston-Webb, elle est devenue brésilienne, là, récemment. Ouais. Mais elle habite à Hawaï depuis elle a grandi à Hawaï. Et pareil, il y a la fille qui s'appelle Brisa Hennessy, elle est costaricaine depuis peu. C'est vrai que les jeux ont apporté un peu ça, mais
je vois le changement de drapeau.
Ce qui est compréhensible, hein, moi je suis pas du tout, je critique pas ça du tout, mais c'est vrai que c'est pareil, elle a grandi à Hawaï, donc hawaïenne. Donc sur le papier, en fait, ce que je dis c'est pas vrai, mais en fait c'est vrai.
Ok. Bon bah trop cool. Ben merci pour les précisions, mais tu penses que le surf français a un bel avenir devant lui?
Ouais, complètement. Je pense que comment dire, faut continuer à travailler. Ça reste un monde très anglo-saxon. Donc faut faire sa place, faut quand même faire sa place dedans, et on n'est pas nombreux quand même. Y a Jérémy, Michel qui est haïtien, et moi, je me trompe pas. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Y en a eu d'autres. Hein. Moi, avant moi, il y a eu Paulinado. Avant Jérémy et tout, il y a eu Mickey Picon. Enfin, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais je veux dire que aussi installé et tout ça, il y en a quand même pas beaucoup. Et par exemple, quand Jérémy et Michel, je sais pas. J'espère vraiment que ça puisse continuer et qu'il y ait d'autres Français sur le tour. J'aimerais trop qu'il y ait une autre Française qui arrive sur le tour.
Bon, on croise les doigts.
Je le pense sincèrement. Après, chez les filles, là, des jeunes, je sais pas trop en ce moment s'il y a vraiment une relève. Je pense que je passe pas assez de temps, en fait, en France pour pouvoir être assez objective là-dessus ou pas. Je sais pas.
Ouais, puis c'est pas forcément ton rôle aussi de pouvoir aller chercher les prochaines pépites, mais ouais, j'espère vraiment que tu vois l'arrivée du surf au jeu, que d'ailleurs il y aura pour Paris 2024, c'est prévu aussi, parce que je sais que ouais c'est prévu, donc tu vois j'espère que tu vois que ce sera un événement vraiment majeur et que ça donnera envie à plein de jeunes filles et en plus t'es assez, t'es même très active, je trouve, pour la cause féminine dans le sport, tu vois. Et je pense que ça inspire aussi plein de jeunes filles, tu vois, qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être pas eu la chance de découvrir le surf aussitôt, peut-être de pouvoir s'y mettre un petit peu plus tard. Donc c'est bien, je suis sûr que ça va dans le bon sens.
J'espère que. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire aussi, effectivement, plus tard, accompagner des jeunes filles, c'est pas forcément évident. Et après, le surf en France, la chose qui est difficile, c'est le froid, en fait, l'hiver. Moi, je l'ai pas eu à La Réunion parce que, tu surfes 365 jours de l'année, quoi, parce qu'il fait chaud et l'hiver en France, c'est quand même rude. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut. Je sais pas, faudrait que j'aille motiver les troupes. Je resterai sur la plage parce que j'aurais pas besoin d'aller dans l'eau.
Ok. Mais ouais, bon, on compte sur toi. Mais effectivement, ouais, l'hiver, c'est. Il faut avoir envie. Il faut vraiment avoir envie de surfer. Ouais. C'est plus compliqué. Mais écoute, trop chouette. Johan, j'ai une toute dernière question. C'est un petit peu, justement, vu qu'on a parlé de Jeux Olympiques, c'est un petit peu comme un passage de flambeau, mais là c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer pour un podcast comme celui-là et pour échanger de tout, de rien et de sport en général.
Alors, j'en ai plusieurs en tête. Si on reste dans le surf, il y a les jeunes Vainé Fierro et Kaoli Vast qui viennent de Tahiti et qui sont les ouais, ils sont juste trop forts et ils ont un mode de vie, je pense, un peu complètement différent à la tahitienne, et je pense que ça peut être intéressant. Et après, j'ai une copine que j'aime bien entendre sur les podcasts et son point de vue, et qui se bat beaucoup pour le sport féminin et surtout sa médiatisation, c'est Isaora Tibus.
D'accord, ok, trop cool.
De l'esprit.
Eh ben ouais, ben écoute, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Isaora, donc je sais qu'elle est dans ma petite liste, donc ben écoute, voilà, ce sera le petit élément déclencheur. Je vais aller faire mes devoirs demain matin et je lui enverrai un petit message. Elle est toujours elle est aux États-Unis, il me semble.
Là en ce moment, je sais pas où c'est qu'elle est. Elle a bien tenu.
Si on m'a dit. Bougez trop les filles, vous bougez trop. Ouais. Je vous suis. Mais écoute, trop chouette. Je vais la contacter avec grand plaisir et je lui enverrai ce qu'on a fait tous les deux. Merci infiniment, Joanne. C'était vraiment cool et j'ai vraiment pris trop de plaisir, tu vois, à pouvoir échanger avec toi et me plonger un petit peu dans ton univers et puis aborder peut-être des sujets sur lesquels on t'entend pas souvent, le travail un petit peu de l'ombre et l'organisation et la professionnalisation du surf. Donc ça m'a fait vraiment hyper plaisir et t'es aussi cool et spontané qu'on peut le voir sur tes réseaux, donc c'est rassurant, c'est pas fake, c'est spontané. C'est
parfait, bah, merci beaucoup aussi à toi pour ton temps et puis à bientôt.
Ouais, salut Joanne.
Salut, bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !